Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à mes recherches. Et merci en particulier au professeur Gawas de m'avoir invité ici. Donc, je vais aujourd'hui vous parler des mathématiques modernes en France, RDA et RFA. Alors, je ne sais pas à quel point le sujet est familier en fait, pour vous. Donc, je vais déjà commencer par définir vite fait ce que j'entends par là, mais de manière forcément un peu superficielle. Parce que justement la définition en vérité est très très complexe. Alors, oui, ça fonctionne. Alors, donc, qu'est-ce que c'est les mathématiques modernes ? Donc là, dans le sens où moi je l'entends aujourd'hui, donc c'est une réforme de l'enseignement des mathématiques qui a eu lieu un peu partout dans le monde dans les années 1960-1970 et qui, donc là encore pour simplifier beaucoup, s'articule en particulier autour de plusieurs éléments, et en particulier il y a l'introduction de la théorie des ensembles dans l'enseignement élémentaire, quand vous avez sur les images là-haut et là, et aussi l'utilisation des structures algébriques en groupe et une insistance plus forte sur donc, les propriétés algébriques des opérations. Alors, donc, les mathématiques modernes, on a souvent... On a considéré que c'est une transposition en fait, des mathématiques de Bourbaki dans l'enseignement, ce qui l'a encore évidemment beaucoup très simplifié. Et en réalité, les motivations pour l'introduction de cette réforme ne sont pas du tout seulement mathématiques. Donc il y a bien sûr du côté mathématique une volonté de rapprocher les mathématiques qui se font dans l'enseignement secondaire des mathématiques supérieures, pour qu'il n'y ait pas ce gouffre en fait, de passage à l'université. Mais il y a également des motivations pédagogiques, puisque en fait il y a un mouvement assez fort, on va le voir, des enseignants aussi en faveur d'une réforme, avec cette idée que en fait introduire des structures mathématiques va permettre aux enfants de mieux comprendre, puisqu'on passe en fait, on va sortir de tout un tas de cas particuliers pour aller à une échelle supérieure et montrer aux enfants en fait les relations entre les différents objets mathématiques qui leur permettent donc de mieux saisir ce qu'on fait. Donc sortir en fait de, si vous voulez, des recettes de cuisine pour donner une vision plus générale de l'enseignement des mathématiques. Et il y a aussi des motivations économiques, parce que donc on est à la fin des années 50 ou au début des années 1960, et il y a alors le lieu commun que en fait la France, l'Allemagne, en fait tous les pays à peu près manquent cruellement d'ingénieurs et de techniciens, qu'il faut donc forcément former beaucoup plus de gens. Donc il faut à augmenter en fait l'enseignement scientifique de manière à la fois quantitative et qualitative. Donc quantitative parce qu'il faut former beaucoup plus de jeunes en fait de manière scientifique, et pour cela améliorer l'enseignement pour que ça attire en fait davantage les étudiants. Bien, donc quand on voit ces différentes motivations, on sent déjà qu'il y a un certain nombre de tensions qui effectivement ne vont pas manquer d'éclater dans les décennies suivantes entre donc ces motivations de réforme. Alors, d'une manière plus générale, en fait, on observe dans les trois pays considérés, mais également aussi un peu partout ailleurs, le sentiment à cette époque-là de vivre une période de mutation profonde. Voilà, donc ça se traduit en fait dans les sources par l'impression de vivre une nouvelle époque, une nouvelle ère, qui est marquée par le développement scientifique et technique. On peut citer l'exemple du Spoutnik, donc qui a beaucoup impressionné en 1957. Qui a beaucoup impressionné les sociétés, en particulier occidentales. Alors, juste pour illustrer ça, là, j'ai sorti, en fait, je vous ai montré deux images qui sont tous les deux des manuels est-allemands pour la première classe, donc le CP. Le premier de 1959, le deuxième de 1965. Donc, vous voyez qu'en 6 ans d'écart, en fait, on passe d'une société bucolique rurale à un graphisme complètement différent et axé sur la vitesse et une modernité technique. Donc bon, c'est une illustration, bien sûr, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui représente assez bien cette impression en fait, de vivre dans un monde nouveau qui est marqué par le développement scientifique, technique, et qui se traduit en fait, de manière très concrète dans les modes de vie quotidiens, avec tout un tas d'objets nouveaux, l'électroménager, etc. etc. Donc c'est une impression qu'on voit déjà dans les sources de l'époque, et qui est aussi étudié par les historiens. Donc là, juste pour citer un historien, il y a Jean-François Sirinelli, donc qui a effectivement a intitulé en fait les 20 ans qui vont de 65 à 85, il y a une petite erreur, donc les 20 décisives, mais qui dans ce livre insiste bien qu'en fait en 65, on sort déjà d'une période de mutation importante. Donc déjà les décennies précédentes ont déjà beaucoup changé. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle société donc, qui émerge, donc, ce qu'on voit dans toutes les sources, c'est effectivement l'idée que c'est une société marquée par les sciences et les technologies. Hop. Donc là, par exemple, on a une citation donc, d'André Lichnowitz, qui était d'ailleurs professeur ici, voilà, et donc qui parle effectivement d'un monde scientifique et technique. Donc là, ça c'est une citation donc, française. Ensuite, ici, c'est une citation ouest-allemande, donc qui évoque aussi le monde moderne et rationalisé. Et ensuite, une citation est-allemande, donc, qui parle également de la révolution scientifico-technique qui est en cours. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier constat, c'est que donc, le monde se transforme. Ce qui pose alors de nouvelles questions, et en particulier sur l'enseignement, donc on se demande alors quelle est la culture en fait dont ont besoin les enfants qui vont vivre dans ce monde de demain, dans ce monde qui sera transformé. Et ça, on voit dans les sources aussi, en fait, c'est lié. Donc, il nous parle ici voilà, du monde scientifique. Et effectivement, donc ici, on nous dit que voilà, la mathématique, c'est une des principales clés pour comprendre ce monde moderne. Et de la même manière, donc ici, dans la source ouest-allemande, il y a également cette idée donc, qu'il faut connaître les points de vue scientifiques et comprendre les structures mathématiques pour vivre dans ce monde moderne, toujours. Et ben, la même chose en Allemagne de l'Est, avec les mathématiques et les sciences naturelles qui, tout d'un coup, prennent donc, une importance énorme et auxquelles il faut donc former les enfants. Donc c'est ça qui explique le titre que j'avais choisi pour cet exposé. Donc la question de, voilà, on vit dans un monde nouveau, quelle est la culture qu'on veut transmettre à nos enfants? Ce qui a un aspect d'un côté intellectuel, quels sont les savoirs dont aura besoin en fait, les jeunes? Mais ça pose aussi une question en fait, de valeur. Qu'est-ce que l'enseignement doit transmettre aux générations futures? Et de toute manière, la conclusion tirée, c'est que l'enseignement scientifique est absolument essentiel et doit donc être stimulé et modernisé. Alors, donc là, en fait, on a vu de manière générale, vite fait, le contexte dans lequel va s'inscrire en fait, cette réforme des mathématiques modernes. Donc, moi, je vais la présenter sur trois pays, donc la France, la RFA et la RDA. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est étudier cette réforme des mathématiques modernes pour en tirer, finalement, des conclusions sur les sociétés. Donc, sur ces trois sociétés-là, pour voir, en fait, quelle est la place qu'ils accordent aux mathématiques, pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est important et comment est-ce que ça s'insère de manière plus globale dans un projet de société, si on veut. Alors, quelles sont les sources pour étudier cela? Donc, je m'appuie principalement en fait, sur les sources des commissions de réforme, parce que donc, dans les trois pays, il y a une commission de réforme qui est mise en place pour mettre en place donc, cette réforme-là. Donc, j'ai étudié les archives des commissions de réforme et aussi, en gros, la presse générale, toujours dans le même but de comprendre en fait, la place qu'on accorde alors aux sciences. Voilà, pourquoi est-ce qu'on les juge importants, quel intérêt on leur accorde et qu'est-ce qu'on attend en fait des sciences. Alors, quelque chose qui me reste à faire, c'est un projet de recherche, c'est de travailler davantage sur les voix des professeurs de mathématiques. Donc en particulier les journaux de professeurs dans les trois pays. Alors, je vais commencer, on va procéder pays par pays, sachant que je passerai un peu rapidement sur la France et la RFA pour passer beaucoup de temps sur la RDA, qui me semble en fait le cas le plus intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en France, en fait, je vais vous montrer vite fait une chronologie pour voir un peu où on en est. Donc on est sur deux décennies, donc de 1955 à 1965. Je peux pointer. Donc là, ça ici, c'est ce qui concerne la RDA. Donc on constate déjà que chronologiquement, on est bien avant les deux autres pays. Ici, c'est la France. Donc vous avez la commission Lichnowitz qui fonctionne de 67 à 73 et les programmes qui entrent en vigueur. Et ici, en bas, c'est tout ce qui est en lien avec la RFA. Alors, on va donc commencer par la France. Donc en France, en fait, l'impulsion de réforme principale, elle vient de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, la PMEP, qui, dès les années 50, en fait, s'engage en faveur d'une réforme de l'enseignement des mathématiques en écrivant des articles dans son journal. L'association, elle organise aussi des cours pour les professeurs, donc pour former les professeurs aux mathématiques modernes. Et elle exerce une activité de lobbying auprès du ministère. donc pour essayer de pousser le ministère à mettre en place une commission et une réforme. Et en fait, il y a déjà une commission à l'intérieur même de la PMEP, comme on le voit ici, et qui réfléchit à la réforme avant même qu'elle soit vraiment d'actualité au niveau politique. Alors, ce qui est caractéristique de la réforme en France, et telle que la voit l'Association des profs de maths, c'est que la modernité mathématique et la modernité pédagogique sont étroitement liées pour cette association. Parce que, donc, pour eux, la réforme, effectivement, elle s'articule beaucoup autour des structures mathématiques, avec cette idée, donc, j'ai déjà un peu évoqué, que les structures mathématiques vont simplifier l'enseignement, vont le rendre plus clair, plus général, ça va nous permettre de sortir de tous les cas particuliers où à chaque fois qu'on introduit une nouvelle opération, on doit redéfinir toutes les propriétés des opérations, l'associativité, la commutivité, etc. Et en fait, si on montre juste que notre structure, c'est un groupe, bah, tout de suite, on a toutes les propriétés, sans le refaire à chaque fois. Bon, c'est un exemple, mais l'idée, c'est en fait de monter en généralité pour voir l'analogie entre des situations qui semblent a priori différentes et grâce à en fait, cette montée en généralité, bah, tirer des conclusions plus simples sans à chaque fois entrer dans tous les détails des situations. Voilà, donc pour la PMEP, effectivement, c'est une réforme donc, qui est pédagogique. Il y a l'exemple, par exemple, de la règle de 3. À l'époque, dans les manuels des années 1950, il y a plein d'exercices qui utilisent en fait la règle de 3, mais en fait on apprend ça comme on apprend des recettes. Voilà, donc à chaque fois, si c'est pour acheter des pommes de terre, on fait comme ça. Si c'est pour mesurer des mètres de tissu et calculer le prix, on fait comme ça. L'idée des mathématiques modernes, c'est de dire bon, en fait tout ça, c'est de la proportionnalité, et voilà, on a une fois une structure qui fonctionne pour tous ces exercices-là. Donc ces motivations pédagogiques et mathématiques en France se doublent d'une volonté politique parce qu'il y a donc l'idée que en fait, cette réforme, elle va aussi, que les mathématiques modernes permettent de comprendre le monde moderne. Alors là, hop, ça c'est, oui, c'est les programmes de primaire. Donc ça, on le voit dans le rapport préliminaire de la commission Lichnowitz qui commence à travailler à partir de 1967. Et voilà, donc qui nous montre ici l'importance des mathématiques pour comprendre le réel, que ce soit le réel physique ou aussi le réel social, par l'économie de pensée que permettent les mathématiques modernes. C'est ce que je viens d'expliquer avant, c'est le fait de passer des cas particuliers à quelque chose de plus général, et ainsi en fait de penser de manière plus efficace. Alors, cela dit, donc il y a une volonté politique, donc il y a cette idée que le monde moderne fonctionne selon des lois mathématiques et qu'il faut donc que tout le monde le comprenne. Donc là, en fait, la réforme se double aussi d'une volonté de démocratisation parce que ce qu'explique toujours dans le rapport de la commission Lichnowitz, c'est qu'en fait, apprendre donc, à se servir des nouvelles mathématiques, des mathématiques modernes, c'est devenu un véritable service public. Donc ce qui montre que c'est quelque chose qui, voilà, qui est important pour tous les enfants. Ce que dit aussi André Lichnowitz de manière encore plus claire dans un article qu'il écrit, que en fait, cette réforme doit éviter de diviser en deux la société en fait, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc il y a vraiment cette croyance que sans la connaissance des structures mathématiques, en fait, on sera perdu dans le monde moderne. Alors, quelques exemples pour ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que les mathématiques sont si importantes? Donc, ce qui est évoqué dans les sources, par exemple, c'est le cas de l'architecture. Ça, Lichnowitz en parle parce qu'en fait, ceux qui critiquent les mathématiques modernes, ils disent, ben oui, mais voilà, les architectes, par exemple, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin des mathématiques classiques. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, même ces métiers-là, comme l'architecture, changent complètement. Parce que dans les années 60, 70, on ne construit plus de maisons individuelles. Là, ce qu'on construit à cette époque-là, c'est les grands ensembles, et que donc il faut penser en structure, en réseau. Il faut penser au réseau, par exemple, d'eau, réseau d'électricité. Il faut penser ces grands ensembles en lien avec l'espace qui les entoure. Et il y a donc cette idée qu'en fait, même des métiers classiques sont en train de changer, et qu'il faut donc adapter, les mathématiques à cela. Un autre exemple qui est donné dans les sources, c'est la circulation en ville. Qui mentionnait aussi à plusieurs reprises et sous des aspects différents. Il y a par exemple l'idée que, en fait, aujourd'hui, les enfants, ça, on peut repenser aux images que j'ai montrées tout à l'heure des manuels des RDA, qu'aujourd'hui, les enfants vivent dans un environnement urbain et qui est constellé de symboles partout. Vous avez voilà, des panneaux routiers et d'autres signes. Et que donc, en fait, nos enfants vivent dans un monde beaucoup plus symbolique qu'avant et aussi abstrait. Donc, il faut s'habituer à ça. Il y a également, toujours pareil, ça sort donc des archives, l'idée que en fait, la circulation routière elle est aussi organisée de manière axiomatique, parce qu'on a fixé des règles en fait, assez arbitraires, la circulation à droite, à gauche, comme selon les pays. Voilà, donc en fait, ça repose finalement sur des règles qui ont été fixées et qui ensuite ont des conséquences. Voilà, donc en fait, on voit qu'il y a vraiment une réflexion sur l'utilité de ce nouvel enseignement. Donc. Parce qu'on a souvent décrit les mathématiques modernes comme quelque chose de très très abstrait, de complètement déconnecté du monde. Et moi, ce qui me semble important, c'est de montrer que les réformateurs ne l'ont pas pensé comme ça. Pour eux, la réforme, en fait, elle devait servir à comprendre le monde. Pour eux, c'était les structures devaient permettre de saisir le réel, mais un réel qui était devenu en fait infiniment plus complexe que dans le passé. Alors, donc ça, c'est le cas français. Donc, évidemment, comme vous le savez sûrement, cette réforme donc, a rencontré des critiques très très fortes en France, et en particulier sur cet aspect du lien avec le réel. Parce que, en particulier, les physiciens les scientifiques des autres sciences expérimentales ont reproché aux mathématiques modernes de couper en fait du réel. Donc, contrairement aux prétentions des réformateurs, ce qu'ont dit les physiciens, c'est en fait non, avec vos structures mathématiques, vous nous coupez de la réalité, et à la place, on est dans un monde complètement abstrait, mais par contre, on ne sait plus observer, et il y a toutes les nuances qui nous échappent. On n'est que dans le général, dans l'abstrait, et tout ce qui est concret, ce qui est observable, ce qui est nuancé, en fait, ça échappe complètement aux structures mathématiques. Il y a aussi des critiques du côté des sciences humaines, avec l'idée que les mathématiques modernes, voilà, cette hégémonie mathématique et rationaliste, en fait, promeut une sorte de vision du monde froide qui met complètement de côté tous les aspects humains. Voilà, donc ça, c'est différentes critiques. Mais voilà, pour la France, si on devait résumer, en fait, la mission des mathématiques modernes, c'était de permettre donc, aux jeunes de comprendre le monde moderne et d'agir en conséquence. Alors, passer donc au cas voilà, donc là j'ai une citation effectivement donc, qui critique toujours dans le cas français, donc qui critique effectivement les mathématiques modernes avec l'idée que donc l'image très forte qu'on est en train de former une génération d'élèves aveugles et paralytiques, donc ils sont incapables en fait de vivre dans le monde concret. Alors passons donc au cas de la RFA. Alors pour les deux Allemagnes, c'est assez particulier. Donc je dis au début qu'on s'intéressait effectivement à la culture qui était donc à redéfinir dans ce monde moderne. Et bien sûr, pour les deux Allemagnes, après la catastrophe nazie, cette question se pose de manière particulièrement lancinante. Il faut redéfinir un enseignement, il faut redéfinir un bagage culturel à transmettre aux jeunes et des valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses qui sont données dans les deux États allemands sont radicalement différentes. Alors, donc, pour la RFA, en fait, la reconstruction scolaire, elle se fait sur un modèle conservateur. C'est-à-dire qu'en gros, on reconstruit le système scolaire qu'il y a eu sous Weimar, qui est en trois parties, ségrégué donc, socialement, selon... voilà, donc, vous avez trois types, en fait, de collèges qui séparent les enfants, globalement, selon leur origine sociale et selon leur destinée future. Donc, en Allemagne de l'Ouest... Effectivement, en fait, le nazisme, il est dans l'ensemble interprété comme une émanation de la modernité. Donc, on met en fait en cause, les sciences et les techniques, avec l'idée que, en fait, les sciences, c'est on a perdu les valeurs classiques humanistes, et que c'est ça qui a permis en fait à cette mise à mort industrielle. Et ce qui fait qu'en RFA, dans les années 1950, ce qui est vraiment mis en valeur, c'est un retour aux humanités classiques et en particulier à la religion. Donc vous imaginez que l'enseignement des sciences, ce n'est pas la priorité absolue. Et en particulier, il y a une réforme qui est mise en place en 1960 et qui permet en fait aux élèves dans le second cycle du secondaire de choisir leur matière et même de ne plus faire de sciences du tout. enfin, c'est-à-dire que les mathématiques, mais plus ni physique, ni chimie, ni biologie sur les trois dernières années de leur scolarité. Ce que les associations de professeurs de sciences donc, décrivent comme une catastrophe. Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel se fait la réforme des mathématiques modernes au RFA. Et effectivement, ce qu'on constate en regardant les archives, c'est que c'est une réforme qui est assez largement importée. Voilà, donc en fait, en RFA, on s'appuie sur les organisations internationales. Voilà, donc il y a en 1959, il y a un colloque très important pour les mathématiques modernes qui est organisé à Royaumont. Donc, qui est organisé sous l'égide de l'OSCE, donc de l'Organisation européenne de coopération économique. Et suite à ce colloque, il y a un livre qui est publié, qui s'appelle New Thinking in School Mathematics. Et en fait, un RFA, c'est ce livre-là qui est traduit, qui est commenté au sein des ministères de l'éducation. Et ici, en fait, là, on voit très clairement, donc c'est une résolution des ministres de l'éducation. Donc, qui ont décidé de moderniser l'enseignement scientifique selon les propositions de l'OSCE. Donc, l'organisation a changé de nom entre les deux, mais peu importe. Et pareil, donc, ils citent aussi, ici, c'était une deuxième publication de l'OSCE, donc la synopsis für moderne Schulmathematik, qui est aussi publiée par une organisation internationale. Donc, en RFA, en fait, voilà, la réforme, elle arrive parce qu'il y a cette influence internationale et... on le voit aussi, enfin on le voit dans les sources, il y a une commission de réforme qui est mise en place, qui se réunit 3 fois seulement. Dans les autres pays, c'est plutôt une quarantaine de fois. Et qui semble en fait travailler sur un texte qui est déjà prêt, là, qui n'y a plus qu'à valider. Et la réforme s'appuie aussi énormément sur les travaux de Zoltán Dinés, qui a développé du matériel éducatif. En fait, c'est, si vous voulez, c'est les ronds, les triangles dans toutes les couleurs sur lesquels on va faire travailler les enfants. Donc voilà, Dinés, c'est quelqu'un voilà, qui voyage beaucoup et qui est présent en fait en Allemagne. Donc il est très présent à la télévision, un peu partout, dans les écoles pour présenter son matériel. Mais en fait, il y a moins de réflexions endogènes. Alors il y en a, donc il y en a un peu dans les journaux aussi de professeurs de mathématiques en RFA, mais on n'a pas comme en France cette pression pour la réforme. Donc en RFA, il y a aussi des professeurs qui veulent moderniser l'enseignement et qui proposent d'ailleurs des programmes qui sont débattus ensuite au sein de l'organisation, donc des professeurs de mathématiques et de sciences, mais il n'y a absolument pas de consensus. Donc ils proposent des programmes modernisés, mais qui rencontrent des oppositions très violentes. Donc il n'y a pas en fait d'homogénéité, de position claire de l'ensemble des professeurs qui poussent dans le sens d'une réforme. Mais voilà, il y a des désaccords assez forts. Voilà, donc on a une réforme voilà, qui est importée, mais on a quand même en RFA aussi l'intervention des milieux économiques qui s'inquiètent quand même sur cette place marginale de l'enseignement scientifique. Donc là, c'est une résolution voilà, d'une société de mathématiques appliquées et de mécanique qui donc évoque aussi effectivement le fait que aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de mathématiques pour l'économie. Et qui disent ici voilà donc qu'on trouve que c'est nécessaire que les programmes de mathématiques dans les écoles en fait soient adaptés au temps moderne. Alors donc il y a effectivement des pressions dans le sens modernisateur donc qui viennent du côté plus mathématiques appliquées et économie. Donc, en 1968, la réunion de tous les ministres de l'éducation des différents Länder allemands prend une résolution qui impose la modernisation à partir du début des années 1970. Et cette modernisation, elle est justifiée. Par exemple, bon, là, on voit pas grand-chose, mais en fait, c'est juste un exemple d'un article dans la presse. Parce que, donc, il y a plusieurs professeurs de maths, dont un qui s'appelle Josef Lauter, qui explique effectivement que cette réforme de mathématiques doit permettre donc aux enfants de penser de manière plus autonome, de remettre en question les vérités reçues, les dogmes et l'autorité. Parce que, bon, voilà, on est au début des années 70, donc ça a quand même un écho assez particulier. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, on quitte c'est une opposition par rapport à l'enseignement ancien, qui consistait globalement dans l'apprentissage par cœur des tables d'addition, de multiplication. Donc l'enseignement moderne qui passe donc en Allemagne effectivement par la théorie des ensembles, par la manipulation des objets, avec cette idée que les enfants en fait construisent eux-mêmes leurs connaissances et donc les acquièrent de manière autonome, doivent réfléchir, doivent raisonner et aussi argumenter. Ce qui du coup donc, leur apprend une pensée donc, plus autonome, plus indépendante des autorités. Voilà, donc ça, c'est un professeur de mathématiques en fait, qui donne cette justification-là des mathématiques modernes, qui ensuite est reprise partout dans la presse. Donc là, je vous ai mis un article, donc je vous dis, voilà, c'est très difficilement lisible, mais c'est juste un exemple, parce que j'en ai au moins une dizaine comme ça, où donc, dans la presse, on reprend cette justification qui est donnée, et on la retrouve aussi dans des débats parlementaires. Donc là, on a un débat parlementaire dans le Landtag, donc le Parlement régional de la Hesse, en 1974, au moment où en Allemagne la crise est au plus fort. Donc on a ici celui qui parle, c'est un député de la CDU, donc du parti de droite, qui s'appuie donc ici effectivement sur la justification de Lauter, des mathématiques modernes. Donc il cite Lauter, qui dit que voilà, les enfants doivent apprendre une pensée autonome, une pensée critique, de voir donc des structures et aussi voilà d'argumenter. Et en fait, donc ce que dit cet homme politique de droite, en opposition donc à un ministre de l'éducation qui lui est plutôt de gauche, qu'il a l'impression en fait que le ministre de l'éducation régionale veut à travers les mathématiques en fait introduire les sciences sociales. Parce que voilà, tout d'un coup en mathématiques, on argumente. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc ça, ben, ça ne plaît pas à, voilà, à certains députés conservateurs. Ce que ça montre ici, c'est que, en fait, finalement, en RFA, en fait, cette réforme, elle a été interprétée d'une certaine manière, qui était cohérente avec, avec les préoccupations politiques du moment. Donc là, je m'appuie aussi sur une chercheuse allemande qui a écrit également donc, sur cette réforme des mathématiques modernes et qui, elle, écrit explicitement que oui, en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin, en fait, qu'il y avait cette idée qu'il fallait remettre en cause les autorités. Et ici, en fait, donc, notre réforme des mathématiques, elle est interprétée d'une manière à pouvoir servir à ce but-là. Alors, donc en RFA aussi, la réforme rencontre des oppositions très très importantes qui viennent, comme on l'a déjà vu ici, qui viennent de la droite, qui n'est pas très contente avec donc cette pensée critique apprise aux enfants, mais qui peuvent aussi venir de la gauche parce que je rappelle quand même qu'il y avait à la base une origine de la réforme qui était liée aussi au milieu économique. Et donc la gauche, en fait, refuse de mettre l'enseignement au service du plan. Si vous voulez. Donc en fait, les critiques viennent des deux côtés. Et ce qui montre effectivement en fait, que c'est un objet très très compliqué, les mathématiques modernes, que les différentes justifications se croisent et voilà, qu'en fait, on peut voir ça de manière très très différente. Alors, je passerai maintenant donc, au cas de la RDA, donc, qui je pense est aujourd'hui en fait, dans la perspective le plus intéressant et que je suis très contente de vous proposer parce que c'est la première fois en fait, que j'en parle. Sachant qu'en RDA, ce qui est intéressant, c'est que la réforme des mathématiques modernes n'est pas que une réforme de l'enseignement des mathématiques. Ça va bien plus loin que ça. En RDA, en fait, le but déclaré comme tel, c'est de créer une culture mathématique au sein de la population. Alors, donc déjà, pourquoi ? Il faut déjà voir ce que c'est. Quelle est la définition des mathématiques de RDA? Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a dans les pays occidentaux. Donc là, on a une citation de 1955 de Lili Goerke, qui elle est en fait une didacticienne des mathématiques, qui dit ça de manière très très claire. Qui voilà, donc chez nous, nous ne voyons pas la mathématique comme une création libre de l'esprit, mais comme une science qui vise à l'exploration du monde réel qui nous entoure. Donc en RDA, les mathématiques sont une science naturelle. Voilà, donc vous n'avez pas la liberté de choisir vos axiomes, mais on prend les axiomes qui s'imposent en regardant le réel. Et si elle commence sa phrase par « chez nous », c'est parce qu'en fait, le colloque auquel elle parle, c'est un colloque qui regroupe des mathématiciens de RFA et des RDA. Donc le « chez nous », c'est explicitement à l'Est. Donc elle dit ça aux gens de l'Ouest. Voilà, donc déjà, les mathématiques en RDA, c'est une science naturelle. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important de l'enseigner aux enfants? Ça, on le dit aussi donc, dans un programme pour la formation des professeurs. C'est parce que le but, c'est de transmettre aux jeunes voilà, une vision du monde scientifique. Voilà. Et donc, parce que la mathématique apprend en fait à connaître et à reconnaître les lois du monde objectif. Alors, c'est très intéressant. Je parlais tout à l'heure donc, voilà, d'interprétations différentes du nazisme et de culture à reconstruire suite à cette catastrophe-là. Donc en RDA, l'interprétation n'est pas du tout la même. En RDA, l'idée, c'est de transmettre aux jeunes que le monde fonctionne de manière objective, qu'il y a des lois qui marchent à la fois pour la nature, mais aussi pour en fait, l'évolution de la société, pour l'histoire. Voilà, donc là, on peut penser au marxisme, hein, qui est pour eux une théorie scientifique, donc qui doit mener à la société communiste en fait, de manière obligatoire. Et en fait, donc, c'est ce qu'ils veulent, c'est apprendre ça aux enfants pour les prémunir de toutes les croyances et idéologies. Montrer, voilà, vous voyez, le monde, en fait, il fonctionne, on peut l'expliquer, on peut trouver les lois qui font que les choses fonctionnent de telle ou telle manière. Donc, ce n'est pas nécessaire de croire en Dieu, par exemple, et dans des miracles, ou alors dans des théories racistes, par exemple. Donc, le but, c'est voilà, de donner une vision du monde scientifique à tout le monde, et donc en particulier aux jeunes, pour voilà, permettre en fait, d'adopter des attitudes rationnelles. Si,
si,
si, si. Je pense effectivement, c'est pas. Oui, oui. Si, je pense qu'il faut changer l'adjectif de place. Voilà, donc l'idée est qu'il faut, voilà, donc, il faut que tout le monde développe en fait, des attitudes rationnelles. Sachant que, évidemment, tout ça ne peut mener qu'au socialisme, puisque le socialisme est l'aboutissement naturel et rationnel, en fait, de l'évolution de l'histoire. Alors, donc, cette introduction elle permet déjà de comprendre pourquoi les mathématiques ont, en fait, jouissent d'un prestige énorme en RDA. Après, bien sûr, il y a aussi un intérêt économique, parce que si les mathématiques sont une science naturelle qui permettent de comprendre les lois du monde, elles permettent aussi de transformer le monde. Donc de le maîtriser, de le dominer, de le transformer, de le mettre au service de l'homme et de la production en particulier. Donc il y a des intérêts économiques évidents et qui sont clairement affirmés dans les sources. Voilà, donc on veut mettre le monde au service de l'homme. Alors, donc cela passe en fait par l'apport des mathématiques aux autres sciences, donc au développement technique. Mais en fait, en Allemagne l'Est, on est aussi dans une démarche de rationalisation plus générale de la production, donc de l'économie, en fait, d'automatisation. C'est une période où on pense beaucoup qu'effectivement, l'économie va devenir de plus en plus rationalisée, qu'il y aura de plus en plus de machines, et que finalement, toutes les tâches subalternes vont être faites par les machines. Et que donc, du coup, les mathématiques, par l'organisation rationnelle du travail qu'elles permettent, devient une force productive immédiate. Voilà, donc les mathématiques sont importantes non seulement parce qu'elles servent les autres sciences, mais parce qu'elles servent à une rationalisation générale de la société. Alors, donc là, quelques exemples. Voilà, il y a des choses très très concrètes dans les sources. Donc, il y a par exemple l'idée qu'en cours de mathématiques, on peut envoyer des jeunes dans la coopérative agricole voisine et leur faire des études statistiques sur voilà, les maladies des cochons, voir avec quelle nourriture, avec quel traitement ça va mieux se passer. Donc, il y a vraiment une utilisation très très concrète des mathématiques donc, au service de la production. Après, on est ici dans une démarche de rationalisation vraiment générale. D'ailleurs, la réforme aussi, elle est faite d'une manière scientifique, si on veut. Donc, en fait, tout est pensé. Il y a cette idée que l'enseignement, qu'il y a une manière d'enseigner meilleure que d'autres. Donc, on la cherche, mais on ne prend pas du tout en compte les facteurs humains, individuels, qui font que différentes choses peuvent marcher. Voilà, donc il y a en fait une croyance dans la raison, dans la rationalité et dans la science. Alors, comment est-ce que ça se traduit dans la pratique? Alors déjà, on a vu tout à l'heure sur la chronologie qu'il y a un décalage dans le temps. En RDA, ça commence beaucoup plus tôt. Et effectivement, les prémices commencent dès la fin des années 1950, où ce qu'on voit dans les sources, c'est des documents qui ressemblent à ça. Très, très, très nombreux. Donc ce qui se passe, c'est qu'en RDA, en fait, ils font dans les classes des contrôles communs. Et ces contrôles communs sont ensuite analysés auprès du ministère. Donc, en fait, il y a une collecte de données très importante qui montre quand même un petit souci de contrôle de la part de l'État. Voilà, donc en fait, il y a plein d'études sur les examens de mathématiques et le constat est sans appel, ça ne va pas. Les résultats en mathématiques sont trop mauvais. Ce qui devient nécessaire d'abord, c'est une amélioration. En RDA, au début, on ne parle pas de modernisation, on parle d'amélioration de l'enseignement des mathématiques. Et les premières mesures qui sont envisagées, c'est effectivement des mesures techniques. Par exemple, on veut mieux former les enseignants, on veut réduire la taille des classes. Et à l'époque, en fait, en Allemagne, les profs, généralement, ils ont plusieurs matières. Et souvent, l'enseignement des mathématiques n'est pas donné par des professeurs qui sont spécialisés en mathématiques. Donc, on veut réaliser ce qu'on appelle le Fachlehrerprinzip, l'idée que, en fait, ceux qui enseignaient les maths, ce serait bien que ce soit des professeurs de mathématiques. Donc là, on est dans des mesures assez techniques. Mais assez vite, en fait, ce discours change. Et comprend aussi des éléments qui montrent que, oui, certes, on peut améliorer les choses de manière technique, mais que ce serait aussi bien de moderniser un peu l'enseignement. Alors, en fait, d'où viennent ces idées? En fait, il y a plusieurs sources. Il y a une sorte de groupe de réflexion qui se crée au sein du ministère de l'Éducation et qui reçoit, en fait, du courrier de professeurs. Donc, voilà, les professeurs peuvent s'adresser directement au ministère et ils le font. En faisant par exemple des récits de leur expérience personnelle, il y a telle et telle chose que j'ai essayé qui a bien marché, ou alors en mettant en valeur telle difficulté particulière pour donc faire des propositions en fait d'amélioration. Donc il y a des sources vraiment très 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 directes. Et il y a une autre source qui sont des contacts avec l'Union soviétique. Parce que donc dans les années là qui m'intéressent, il y a à peu près un voyage par an d'une délégation est-allemande dans l'Union soviétique, avec l'unique but d'étudier l'enseignement mathématique en Union soviétique. Un voyage qui est particulièrement important a lieu en 1962, où la délégation est-allemande discute avec un mathématicien russe qui s'appelle Markouchevitch. Et Markouchevitch leur explique qu'en fait, ce qu'ils font, ça ne va pas du tout. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'en Allemagne de l'Est, il y a ce qui est très important, c'est le lien entre la théorie et la pratique. Et que les mathématiques donc, doivent servir au concret. Et donc, ce que met en cause Markouchevitch, c'est des exercices qui finalement prennent un contenu mathématique abstrait et qui l'habillent d'une situation concrète. Donc, lui, ce qu'il dit, non, ça, c'est du practicisme, c'est très mal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas justement de mettre de l'habillage inutile autour des structures mathématiques, mais c'est de partir du réel. Et à partir du réel, justement, dégager tout ce qui est secondaire, tout ce qui est non essentiel, pour en sortir, en fait, le substrat mathématique. Voilà, donc c'est une démarche, en fait, voilà, il y a l'idée que les mathématiques doivent refléter la vie réelle, mais que ça doit être un reflet épuré. Voilà, qu'en fait, on veut créer un outil abstrait et puissant qui nous permet, par contre, d'agir sur le réel. Alors, toutes ces réflexions aboutissent en décembre 1962, sur le Mathematikbeschluss, qui est en fait une résolution prise par, bon, il y a toujours une double origine, qui d'un côté le parti, le comité central du parti, et de l'autre côté le gouvernement. Donc voilà, ça, on a toujours cette double action, d'un côté il y a le parti, d'autre côté il y a le pouvoir politique, ça se croise un peu partout. Voilà, donc qui en décembre 1962 émet cette résolution qui porte tout entièrement sur les mathématiques. Avec là, pareil, donc un constat d'échec déjà. Bon, alors déjà, on va taper un peu sur l'Allemagne de l'Ouest parce que c'est gratuit, que ça ne fait jamais de mal. Disons que déjà, donc voilà, l'enseignement RDA, il est de toute manière, il est mieux qu'à l'Ouest, clairement, parce qu'à l'époque, parce que là-bas, c'est encore une école bourgeoise où on ne fait que du calcul et une étude de l'espace, mais pas véritablement des mathématiques. Mais par contre, chez nous, ce n'est quand même pas satisfaisant. Il faut donc améliorer l'enseignement à l'Est aussi. Et ce document est très structuré parce qu'il propose dans une première partie des mesures à mettre en place de manière immédiate, qui là encore sont généralement assez techniques, mais dans une deuxième partie, des mesures à plus long terme, où là, il y a une véritable idée de modernisation, qui doit donc être mise en place par une commission. Donc il y a une commission aussi qui est créée, qui doit mettre en place ces mesures-là. Alors, ce qui est remarquable en RDA, qui est différent par rapport à peu près tous les autres pays, c'est qu'en fait, en France, en RFA et presque partout ailleurs, la réforme elle commence par le second cycle du secondaire. Donc elle commence par les enfants, en gros, qui vont passer leur baccalauréat pour des raisons assez claires avec l'origine de la réforme, parce que ce qu'on veut, c'est donc former des scientifiques, des ingénieurs et réduire le gouffre entre enseignement secondaire et universitaire. Donc généralement, on commence par le second cycle du secondaire. Et ensuite, la réforme s'étend au premier cycle, puis à l'enseignement primaire, pour deux raisons principalement. Une raison de cohérence, parce qu'on se dit que faire des maths modernes aux adolescents de 15 à 18 ans et des mathématiques classiques avant, ça n'a pas de sens. Et aussi par souci de démocratisation, parce que tout le monde ne va pas dans le second cycle. Et on se dit qu'il faut quand même donner ces outils modernes à tous les enfants. En RDR, ce n'est pas comme ça. Donc la réforme, elle est pensée d'emblée sur toute la scolarité. Et les premiers programmes modernisés qui entrent en vigueur, c'est pour ce qui est l'équivalent du CP. Alors, on peut se demander pourquoi. Déjà, une réponse que j'aurais à donner, c'est une question de temporalité. En RDA, en fait, c'est Margot Honecker, la ministre de l'Éducation, elle reste au pouvoir de 63 à 89. Donc, si on n'est pas soumis aux aléas des élections démocratiques, forcément, on peut prévoir une politique sur une temporalité différente. Donc, il y a cela. En tout cas, on peut constater vraiment que ça commence tout de suite avec la première classe. Effectivement, il y a donc la question de qu'est-ce qui est prévu en RDA. Alors, ce qui est intéressant aussi en RDA, c'est que souvent on distingue dans l'enseignement des mathématiques une conception utilitaire, en disant il faut que les enfants ils sachent faire tout un tas de techniques qui sont utiles pour leur futur métier, et une conception formatrice. Donc là, on est plus dans former la pensée, à penser de manière mathématique. En RDA, en fait, ces deux choses, cette distinction, elle n'existe plus. Parce qu'on estime que même ce qu'il faut pour l'économie, c'est des jeunes qui sachent penser de manière mathématique, qui sachent mathématiser le réel, et on n'est plus dans ces idées d'apprendre par cœur des tables. Ce qu'il faut vraiment, c'est un enseignement de haut niveau pour tout le monde. Alors, on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, vous avez un manuel, donc là on est 1, donc ça veut dire qu'on est en classe de CP. Donc on a dès la classe de CP en fait une introduction de variables. Ça effectivement c'est quelque chose qui est très important, c'est ces idées de tableau. C'est de montrer tout de suite que en fait on peut faire du calcul littéral, que les lettres peuvent remplacer des nombres. Et effectivement on fait donc des équations et des inéquations donc dès le CP. Alors un autre point très concret, donc là toujours pareil, on est toujours en classe de CP. C'est qu'on essaye de mettre en valeur le lien entre l'addition et la soustraction pour faire un enseignement toujours pareil, tout plus rationnel. Donc ça sert à rien d'apprendre d'abord l'un puis l'autre sans voir qu'il y a un lien entre les deux. Hop, je vais peut-être passer un peu vite. Hop. De même, il n'y a pas ce qu'il y a en RFA, cette hégémonie de la théorie des ensembles. Là, par exemple, on est sur l'introduction de la multiplication et on voit que l'idée, c'est de multiplier les approches. Donc on a une première approche qui fait que la multiplication, en fait, c'est juste un raccourci pour des additions répétées. On a une approche un peu géométrique pour la multiplication. Et on a aussi une approche combinatoire. Donc, on voit que, on est toujours dans CP. Hein. Donc, on ne veut pas, en fait, imposer une seule approche, comme c'est le cas en RFA, où on répète les ensembles sans fin. Mais, multiplier les approches pour, là encore... faire quelque chose de plus rationnel. Je vais passer sur ça, c'est intéressant. Je vais passer vite fait sur la partie extrascolaire. Donc je dis en RDA, la réforme n'est pas seulement sur l'enseignement, mais il y a vraiment cette volonté de mettre en place une culture mathématique dans toute la société. Et cela passe par, je cite mes sources, par la propagande mathématique, qui est mise en œuvre donc, auprès des élèves, des enfants et des parents. Par exemple, vous savez qu'en RDA, il y a aussi des organisations de jeunesse, d'embrigadement de la jeunesse. Ces organisations-là, elles sont mises au service de la formation scientifique et mathématique des jeunes. Donc là, on a par exemple une publication, un journal mathématique qui est édité ici, on le voit, par l'organisation de jeunesse, par la Freie Deutsche Jugend. ça passe donc, voilà, par ce genre de publication. Il y a aussi une organisation d'Olympiades mathématiques. Il y a aussi des articles de journaux dans la grande presse qui sont commandités évidemment par le ministère, avec vraiment cette idée qu'il faut que la population entière doit être convaincue que les mathématiques, c'est très important. Voilà, que c'est ça qui permet en fait à la fois de comprendre le monde et aussi de permettre le développement économique qui, lui, doit contribuer à la victoire du socialisme. Voilà, parce que dans les années 60, il y a l'idée que le socialisme en fait va s'imposer en démontrant sa supériorité économique sur le monde capitaliste. Voilà, donc ce que nous montre finalement donc l'étude des mathématiques modernes dans ces trois pays, en fait, c'est un point commun. C'est une croyance vraiment dans l'importance absolument fondamentale des mathématiques dans cette période-là. Mais on a aussi des différences assez importantes qui montrent que justement les mathématiques modernes, donc j'ai du mal à définir clairement au début, sont justement un objet très très souple. Voilà, c'est un objet d'une grande plasticité qui peut être mis au service de différents projets politiques. Donc que ce soit en France par exemple, où voilà, on a un projet plutôt de démocratique, de donner en fait, de permettre de comprendre le monde moderne. En RFA, on a vu que c'était quelque chose au service d'un certain anti-autoritarisme, alors que en RDA, les mathématiques doivent servir à donner donc une vision, voilà, une vision scientifique du monde. Merci. Voilà, donc ce qui montre finalement, effectivement, que les mathématiques modernes ont une grande souplesse. Et finalement, cette étude nous apprend à peu près, nous apprend des choses sur les mathématiques modernes, mais aussi au moins autant sur les sociétés considérées. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.